l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Bienvenue sur CKVM, ici Aniel Conan pour votre bulletin d'information de ce mercredi 26 juin 2024. Le Provigo de Ville-Marie, après près de 2 décennies de service, va être converti en maxi. Le jaune et le bleu de l'enseigne maxi remplaceront bientôt les couleurs familières de Provigo. Denis Nollet, l'actuel propriétaire du Provigo et futur directeur du maxi, nous explique les raisons de ce changement.
C'est pas mon choix, c'est le choix de la bannière, c'est le choix du franchiseur ou du propriétaire qui est l'Aubla, qui a décidé l'année passée de convertir, je vous dirais, une quarantaine de magasins, j'ai pas le chiffre exact, là, au Québec, de Provigo vers Maxi. C'est un choix d'entreprise, là. Honnêtement, la réponse, c'est plus les gens de Maxi qui pourraient te répondre que moi, c'est eux qui ont fait le changement.
Denis Nollet nous guide à travers les différentes étapes et les principales actions de cette conversion de Provigo à Maxi.
Première date importante, la fête qui s'en vient, donc moi, samedi le 29 juin, c'est ma dernière journée de propriété au magasin. On va fermer le magasin à 5h samedi pour réouvrir jeudi à 8h le 4 juillet avec le circulaire Maxi. Donc, pendant ces 4 jours fermés-là, on va aménager le magasin le plus possible pour ressembler à Maxi. Les gens vont pouvoir profiter du circulaire, toutes les offres Maxi qui auront en place à partir de jeudi le 4 juillet. Ensuite, on va opérer le magasin pour au moins 2 mois. Donc, le magasin physiquement ne changera pas. Par contre, à partir du 8 septembre, les débuts de rénovation. Donc, le magasin sera fermé du 8 septembre au 3 octobre. Donc, jeudi le 3 octobre, retour, le magasin va réouvrir. La partie de rénovation qui va être faite là, ça va être une des plus majeures qu'il y a à faire au magasin. Parce que là, on va réouvrir le toit. Il va rester encore des rénovations qui vont se faire de nuit à partir du toit, aller jusqu'au 12 décembre. Donc, le 12 décembre, c'est la date de fin des travaux. Donc, ça va être l'ouverture officielle là, qu'on va faire le 12 décembre qui est prévu. Évidemment, ces dates-là peuvent changer, mais c'est ça le plan que j'ai actuellement.
Ce week-end, Provigo fermera ses portes pour des rénovations. C'est l'occasion idéale pour y faire un dernier tour et se ravitailler avant la transformation.
Cette semaine pour les achats, il y a 4 jours qu'on va fermer. Fait qu'aux gens de profiter des dernières journées qui restent, parce que évidemment le magasin, on a liquidé beaucoup de produits qui seront plus chez Provigo. Puis on va rentrer des nouveautés Maxi aussi. C'est ce qu'on fait depuis déjà 2 semaines. Là, présentement, l'offre qu'on a en magasin, bien, elle est de moins en moins grande jusqu'à samedi. Parce que samedi, on va finir avec un inventaire plus basse pour repartir avec l'inventaire neuf le 4 juillet.
Le Parti québécois, par l'intermédiaire de son député Pascal Bérubé, exprime sa préoccupation face à la série de fermetures temporaires dans l'industrie du bois, affectant sévèrement des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les scieries québécoises sont essentielles à de nombreuses communautés. Leur fermeture, même temporaire, entraîne des répercussions dramatiques. Le gouvernement doit intervenir de manière urgente pour soutenir ce secteur vital et éviter des fermetures permanentes, a-t-il déclaré. Pour atténuer les effets de cette crise, le Parti québécois appelle le gouvernement à octroyer des aides financières et des prêts à faible taux d'intérêt aux scieries touchées afin de maintenir leurs activités et leurs emplois. De plus, il est crucial que la ministre des Ressources naturelles et de la Forêt prenne des mesures pour aider les entreprises à se rentabiliser à moyen terme et offrir un régime prévisible. Pascal Bérubé appelle également ses homologues de tous les niveaux de gouvernance à se mobiliser en faveur des travailleurs de la forêt. Il a affirmé ceci: nous devons agir maintenant pour protéger nos emplois et soutenir nos communautés forestières. Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés face à cette crise. Le Parti québécois exhorte ainsi le gouvernement du Québec à prendre des mesures immédiates pour sécuriser l'avenir des travailleurs forestiers et assurer la durabilité de l'industrie du bois en Abitibi-Témiscamingue. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, vient de conclure une session parlementaire marquée par des avancées significatives pour la région. Il nous fait part de son bilan général de cette session.
Dans l'ensemble, c'est une session très positive pour moi et pour le Bloc québécois. Je pense qu'on a réussi à faire avancer plusieurs choses. D'abord, moi, dans mon cas, j'ai de nouvelles responsabilités comme responsable des relations avec les Autochtones et le développement du Nord. Je pense que ça a été une occasion de changer le ton, notamment en comité, d'amener vraiment une perspective autochtone, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse entendre leur voix et surtout amener des solutions de dialogue beaucoup plus concrètes que ce que proposait le gouvernement. Donc ça, j'en suis fier. Ça a touché plusieurs projets, là, qu'on touche au projet de loi doigt sur l'eau, notamment dans les Premières Nations. On a touché des enjeux comme l'éducation, les territoires protégés, l'enjeu de Chalk River est quelque chose qu'on a pu aborder à quelques reprises, mais surtout les enjeux d'habitation. Qu'est-ce qui fait que les projets autochtones ne fonctionnent pas pour la construction de logements? Ben moi, je pense, c'est ce que je mets beaucoup de l'avant, ça prend des initiatives par, pour et avec les Autochtones. Je pense notamment au projet Inanchia, auquel j'ai voulu vraiment donner beaucoup d'oxygène pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des fonds autochtones qui puissent d'investissement, qui puissent aussi contribuer dans les communautés.
En fin de session, le rapport du Comité permanent du patrimoine sur le sport sain et sécuritaire a été adopté et la recommandation principale est de tenir une véritable enquête publique et indépendante sur les abus physiques, psychologiques, financiers et sexuels vécus par les athlètes.
À la fin de la session, à toute dernière journée, le rapport sur la pratique du sport sécuritaire a été adopté et déposé à la Chambre des communes, c'est-à-dire, donc après plus de 2 ans, c'est un comité qui a été très actif au Comité du patrimoine. Ça avait commencé avec la motion que j'avais déposée en Chambre pour pouvoir convoquer les hauts dirigeants de Hockey Canada pour faire la lumière sur les faits allégués de London, on s'en souvient, en 2018. Et notamment, un des impacts de cette étude-là, ben, c'est qu'il y a eu des accusations 2 ans plus tard. Et je suis convaincu que je n'avais pas déposé cette motion-là en Chambre si on n'avait pas fait un gros travail en comité avec l'ensemble des partis politiques pour pouvoir faire la lumière, convoquer des documents, convoquer les dirigeants. Il n'y aurait pas eu d'accusations qui auraient été portées. Il n'y aurait pas eu des changements qui sont arrivés au sein de Hockey Canada, Soccer Canada, la gymnastique et bien d'autres. Et là, ben, j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que parmi les recommandations, tant celles de notre rapport complémentaire que celles du comité, est-ce qu'il va y avoir des suites qui vont être données, tant au niveau canadien qu'international? Je pense qu'on a fait un diagnostic assez solide des problématiques, donc j'ai hâte de voir comment ça va aller de l'avant.
C'est la fin de ce bulletin d'information sur CKVM. Merci de votre fidélité.